positif, Soraya Amrani.
Bonjour et bienvenue dans Haut Positif, ravie de vous retrouver à ce micro. J'en profite pour saluer Véronique Thiberghien, quelque peu souffrante et que vous retrouverez sur pied bientôt sur cette antenne. Prompt rétablissement à toi, l'ami Thiberghien. Au programme de notre émission aujourd'hui, la perf du jour. Vous le savez, cette semaine, Agnès Guissard nous emmène dans les nouvelles urgences de Saint-Luc. Un grand chantier a été lancé en mars avec comme objectif construire un nouveau service en s'inspirant de ce qui se fait de mieux ailleurs, en Suisse, en France ou en Allemagne. Gros plan aujourd'hui sur la consultation de médecine générale des urgences. Notre dossier du jour, lui, sera consacré aux vertus du jeu dans la revalidation de patients qui, suite à un traumatisme, un accident vasculaire cérébral ou à une maladie telle la maladie d'Alzheimer, souffrent de problèmes cognitifs, d'attention ou de mémoire. Nous recevrons pour nous en parler deux thérapeutes, une neuropsychologue et une neurolinguiste qui travaillent toutes les deux au centre de réadaptation fonctionnelle neurologique ambulatoire de l'hôpital Erasme. Les vertus des jeux de société, notamment pour retrouver ses facultés, c'est notre dossier du jour. Mais dans quelques secondes, nos news, il sera question aujourd'hui du remplaçant des parabènes qui provoquerait de l'eczéma. Nous reviendrons également sur une araignée qui fait une réplique d'elle-même. L'optimisme également, il sera question d'optimisme dans notre journal aujourd'hui, ça fait sourire Caroline. Être optimiste, c'est bon pour la santé, c'est elle qui nous le dira. Et puis notre main aussi aurait évolué pour pouvoir donner des coups de poing. Toutes ces news, et bien c'est dans quelques secondes. Vous êtes sur la première, vous y êtes bien. Excellente matinée à vous.
Au positif, ADN.
Bonjour Caroline.
Bonjour Soraya. Et donc voilà, aujourd'hui on va parler du remplaçant des parabènes. Vous savez, dans les pubs maintenant on entend la crème sans parabènes.
C'est un argument de vente. Hein.
Et oui, donc parce que les parabènes ont été interdits depuis 2011, car ils étaient considérés comme étant potentiellement cancérigènes et auraient une action sur la fertilité. Donc du coup il a fallu les enlever. Et on les utilisait donc comme conservateurs dans les cosmétiques, les crèmes, les savons, etc. Et son remplaçant, il a donc été question de prendre du méthylisothiazolinone.
Bravo.
Dit émité. Hein, ce sera plus simple. Et on le retrouve dans les produits de toilette comme les savons, les lotions, les shampoings et dans les produits ménagers comme les produits vaisselle et le liquide nettoyant pour le sol par exemple. Et alors le problème c'est que la Société française de dermatologie a constaté qu'il y avait de plus en plus de réactions à ce émité comme de l'eczéma de contact. Donc quand vous mettez de la crème sur votre visage, vous pouvez faire une réaction des plaques et ce produit serait donc trop irritant pour le corps. D'après le professeur Annick Bardot, qui est responsable de l'université dermato-allergologie du CHU de Nancy, on constate principalement donc des cas d'eczéma de contact localisés sur le visage ou des cas d'eczéma plus diffus en réaction par exemple à une lotion qu'on mettrait sur le corps. Mmh. Et la solution, bah, ce serait pour les personnes qui ont la peau fragile et sensible, on leur conseille de regarder les étiquettes et de traquer la mention émité. Donc si vous voyez la mention émité, que vous avez la peau sensible et fragile, oui, il faut faire très attention. Voilà.
Astronomie maintenant. Des astronomes viennent de découvrir que l'étoile Tau Ceti abrite pas moins de 5 planètes. L'une d'entre elles pourrait même se trouver dans la zone habitable. La liste des planètes potentiellement habitables s'allonge donc une nouvelle fois. Dans une étude publiée mardi dans la revue Astronomy and Astrophysics, des chercheurs révèlent avoir découvert 5 planètes en orbite autour de l'étoile Tau Ceti. C'est intéressant vu que la fin du monde c'est pour demain, il semble. Une petite planète en plus. Une étoile, Tau Ceti donc, qui serait visible à l'œil nu, située dans la constellation de la Baleine. Alors si ces planètes ont pu être découvertes, c'est grâce à la nouvelle technique de collecte de données astronomiques capable de détecter des signaux deux fois plus faibles. Nous avons choisi Tau Ceti parce que nous pensions qu'elle ne comportait aucun signal. Et elle est si brillante et semblable à notre Soleil qu'elle constitue un banc d'essai idéal pour tester notre méthode de détection des planètes de petite taille. C'est Hugh Jones qui l'explique de l'université britannique du Hertfordshire. Au total, les chercheurs ont ainsi passé en revue pas moins de 6000 observations de Tau Ceti provenant de télescopes installés au Chili, en Australie, pas vraiment en Belgique, à Hawaï.
Non, plus là où il fait chaud, bizarrement.
Oui, étonnamment. Oui. Alors, les 5 planètes détectées ont une masse comprise entre 2 et 6 fois celle de la Terre. Et c'est vrai que là aussi, ça commence à devenir intéressant. Alors, les astronomes ont découvert que l'une de ces planètes désigne on leur donne des lettres de l'alphabet.
Elles n'ont pas encore de nom.
Elles n'ont pas encore de nom. Alors il y a B, il y a C, il y a D et puis il y a E. Ben, ces planètes, et en tout cas celle-ci, la E, serait située dans une zone habitable. C'est intéressant pour ceux qui chercheraient à fuir la Terre d'ici peu.
Une araignée qui fabrique une araignée.
Oui.
C'est pas banal non plus, vous avouerez.
Non.
Alors, elle a été découverte, c'est dans la série La nature n'arrêtera jamais de nous surprendre. Elle a été découverte près du Tambopata Research Center, au cœur de l'Amazonie péruvienne. Alors, les chercheurs sont tombés sur un petit arachnide, bon, petit, de taille moyenne. Il était fixé sur sa toile et ils ont pensé, au vu de son aspect assez desséché, que la bête devait être morte. Ils se sont approchés, la chose bougeait donc n'était pas morte.
Oui.
Et ils se sont encore approchés et la surprise, c'était même pas une vraie araignée. C'était un leurre, fabriqué à partir de morceaux de feuilles, de débris et d'insectes morts. L'artiste de ce leurre, c'est une araignée qui est en fait toute petite, qui fait 5 mm. Et ils l'ont découvert pas loin de sa toile, fatalement. Et cette petite araignée donc, qui mesure 5 mm, elle appartient à une espèce qui est juste ici inconnue, du genre Cyclosa. Donc le genre Cyclosa est connu, mais l'espèce n'était pas encore connue. Alors le genre Cyclosa est connu pour utiliser des débris dans leur toile afin d'attirer des proies ou de faire peur à des prédateurs. Mais on n'avait encore jamais observé une araignée qui faisait une réplique plus grande d'elle-même.
Ah oui, parce que c'est comme un clone, presque.
Oui, c'est oui, voilà, c'est une, elle fait de la sculpture. Donc c'est assez rare, les scientifiques ont ratissé la zone et ils ont découvert 25 araignées de cette nouvelle espèce dans la zone qu'ils ont observée, mais en élargissant la zone, ils n'en ont plus trouvé. Donc ce serait une espèce visiblement assez rare. La prochaine étape, c'est de savoir plus sur cette araignée artiste, ses caractéristiques, son comportement, etc. Et les facteurs seront comparés à ceux des autres spécimens du même genre. Et ce n'est qu'une fois l'araignée décrite et les conclusions publiées que la petite bébête aura droit à avoir un nom. C'est comme vos planètes, elles n'en ont pas encore.
Pas non. Bah, vous voyez, ça peut être sympa une araignée, hein,
non,
pour
voilà.
Ceux qui ont très 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 peur des araignées, de toute façon,
mais oui.
De les observer, de les apprécier.
Mais
sait.
Étant toute petite, il a fallu qu'elle se fasse plus grande pour faire peur. Voilà.
C'est un bon truc, ça.
Mais
si on pouvait
bon
faire
truc,
la même
moi,
chose, ce serait pas
si
mal.
Si je pouvais faire la même chose, ça m'aiderait.
Autre news, notre main n'a pas seulement évolué pour nous rendre plus habiles, mais aussi pour nous permettre de mieux donner des coups de poing. C'est une dépêche AFP qui nous l'apprend. On a lu ça tout récemment. Des chercheurs ont voulu vérifier cette hypothèse. L'homme possède une paume et des doigts courts, ainsi que des pouces longs, forts et mobiles, qui lui permettent de manipuler les objets par le bout des doigts uniquement. Et ça, c'est vraiment une spécificité humaine. Cette manipulation a joué un rôle crucial dans l'évolution de l'espèce, puisque ça nous a permis de fabriquer des outils. C'est pas la moindre des choses. Là où, par exemple, les longues mains des autres primates seraient adaptées à une vie dans les arbres, et à la locomotion sur des branches de grand diamètre, on a quand même pas mal évolué. Alors une autre théorie plus récente suggère que la main de l'homme a évolué parallèlement à son pied lorsqu'il a adopté la marche bipède, main et pied se développant ainsi suivant des processus similaires. Michael Morgan et David Carrier, chercheurs à l'université d'Utah aux États-Unis, ont voulu explorer une troisième piste. Respectivement médecin et biologiste, les deux chercheurs ont en effet constaté que les proportions et la mécanique de la main humaine en faisait la structure idéale pour donner des coups de poing. Les phalanges repliées s'imbriquent parfaitement entre la paume et le pouce et cela renforce le poing et rend la main plus résistante au choc en répartissant bien l'énergie jusqu'au poignet pour protéger os et articulations. Les chercheurs ont donc procédé à diverses expériences pour tester leur idée sur des volontaires auxquels ils ont demandé de frapper dans des sacs de sable poing fermé.
Je suis sûre que ça ne manquait pas les volontaires.
Oui, j'imagine. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'hommes dans ces sacs. Donc on leur demande de frapper dans des sacs de sable, le poing fermé puis paume ouverte de différentes façons. Alors première surprise, contrairement à leurs attentes, frapper avec le poing fermé ne semble pas conférer un avantage significatif en termes de force. Par contre, la surface de frappe d'un poing fermé ne représente même pas le tiers de celle de la main et seulement 60% environ de celle de la paume. Cela signifie qu'à puissance égale, la force d'impact d'un poing est bien supérieur et a plus de chances de provoquer une blessure. C'est ce qu'il relève dans une étude qui a été publiée récemment par la revue Journal of Experimental Biology.
On évolue pour se battre, quoi.
En gros, et pour faire de la boxe. Développer ses facultés grâce au jeu, c'est l'approche développée par toute une équipe, celle du Centre de réadaptation fonctionnelle neurologique ambulatoire de l'hôpital Erasme. L'idée étant d'introduire des jeux de société, notamment dans le travail de revalidation de patients qui souffrent de problèmes cognitifs, problèmes d'attention, de mémoire ou problèmes d'organisation. Bonjour Catherine de Giorgio.
Bonjour.
Vous êtes neuropsychologue à Erasmus, vous faites partie de cette équipe.
Voilà, tout à fait. Donc je travaille au centre de réadaptation et je travaille avec ma collègue ici, Agnès Brison. Et
Agnès nous... Brison, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes neurolinguiste.
Oui.
À Erasmus. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quel type de pathologie peut bénéficier de ce genre de traitement? Enfin, quels sont vos patients, pour le dire plus simplement?
Donc au centre de réadaptation, donc on a que des adultes. Et donc les adultes, c'est à partir de 18 ans jusqu'à d'âge, et ce sont des gens qui ont été victimes d'un accident vasculaire cérébral le plus souvent, ou d'un traumatisme crânien. Et donc là, les traumatismes crâniens, on se retrouve avec une population malheureusement plus souvent jeune, puisque ce sont souvent suite à des accidents de roulage.
Et en général, ils souffrent peut-être aussi précisément, il arrive aussi qu'il y ait des gens qui souffrent de maladies d'Alzheimer.
Alors, dans le centre, on n'accueille pas de pathologie dégénérative.
Donc, pas encore.
Mais en effet, l'association se fait rapidement puisque les troubles sont parfois un petit peu similaires, mais nous n'avons pas de pathologie dégénérative.
Parce qu'on ne s'y intéresse pas encore, ou parce qu'on considère que ça ne pourrait pas les aider, ou c'est un domaine de recherche?
Non, en fait, c'est un petit peu des classifications différentes. Et donc, ici, on prend des pathologies que nous, on appelle acquises. Donc, ce sont d'accord. Des gens qui, voilà, malheureusement, à un certain moment, il leur arrive quelque chose, un accident vasculaire, un traumatisme crânien, et donc ce n'est pas quelque chose d'évolutif, il y a vraiment une cassure par rapport à leur vie d'hier, j'ai envie de dire.
Agnès Brison, quelles sont ces facultés qu'on va tenter de retrouver grâce au jeu?
Donc moi je suis neurolinguiste et avec les jeux je vais principalement retravailler des facultés de langage. En fait, un patient cérébro-lésé, quand il a donc la lésion qui se fait dans l'hémisphère gauche du cerveau, il va perdre certaines capacités linguistiques. Donc souvent il va être aphasique. Qui dit aphasique dit manque du mot. Manque du mot, c'est on ne trouve plus son mot. Donc par exemple, le patient voudra dire chapeau, il va pas trouver le mot chapeau, mais il va dire écharpe à la place, ou alors il va dire château ou encore autre chose. Donc moi je vais travailler beaucoup avec ce genre de jeux-là, qui vont travailler le langage, la compréhension, l'expression par mot ou par phrase, l'écriture, la lecture, parfois le calcul. Et évidemment, dans tous ces jeux, il y a toutes les fonctions cognitives que travaille Catherine. Donc l'attention, la concentration, l'inhibition, la flexibilité.
Bah parlons-en justement, Catherine, de toutes ces fonctions.
Oui, alors les fonctions, je pense, les plus communément connues sont les troubles de la mémoire. Et donc les gens que nous rencontrons le plus souvent souffrent de troubles de mémoire. Donc des troubles de mémoire qui sont soit des troubles de mémoire à court terme, soit des troubles de mémoire à plus long terme. Alors pour expliquer, troubles de mémoire à court terme, la mémoire à court terme, c'est la mémoire qu'on est en train d'utiliser maintenant. Ben voilà, j'ai dû retenir votre question. Et je dois en plus retenir ce que je viens de dire. Et en plus maintenir peut-être toute une série d'idées. De choses que j'ai envie de transmettre. Et donc cette mémoire à court terme, on l'utilise dans toutes nos activités. En fait, elle est tout le temps présente. Et elle est très dépendante, évidemment, de nos facultés de concentration. Et donc, elle est inévitablement très fragilisée lorsqu'il y a eu, justement, un dégât, pour dire les choses comme ça, un dégât cérébral. Et donc, ça, c'est pour la mémoire à court terme. Pour la mémoire à long terme, alors, c'est pas tant comme dans les films. Bien sûr, on a des patients qui présentent des amnésies où ils ont perdu quelques années de leur vie, mais ça, je dirais que c'est pas très courant. Le plus courant, ce sont des gens qui ont des difficultés à mémoriser ce qui se passe au fur et à mesure. Mmh. Et donc, ben voilà, on est présente ici maintenant à trois dans le studio, et puis ben, je vais me retrouver dans le couloir, je vais croiser quelqu'un et je serai incapable de dire que je viens de participer à une émission radio. Donc c'est le fait d'avoir des difficultés à emmagasiner des nouvelles informations. Alors ça peut être très excessif, comme l'exemple que je viens de donner, ça peut être quelques minutes, mais ça peut s'étaler sur quelques heures, quelques jours. Donc recroiser le lendemain quelqu'un qui ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé. Donc ça, ce sont les troubles les plus courants qu'on rencontre, les troubles de mémoire, qui sont donc dépendants, comme je l'ai dit, des troubles d'attention. Donc si on n'arrive pas évidemment à être attentif à la situation présente, bah, a fortiori, on ne va pas arriver à encoder les différentes informations de cette situation. Alors il y a des troubles un petit peu plus complexes, que nous on appelle les troubles des fonctions exécutives. C'est tout ce qui relève de la planification, de l'organisation. Et donc bah, planifier, ça peut être simplement comment arriver ici ce matin à la radio, arriver à la bonne heure, il a fallu relire le mail, voir où était le lieu de rendez-vous, voir comment on arrive à Bruxelles, trouver le parking, demander ici dans les couloirs pour arriver. Donc il faut planifier toute une série de tâches qu'on va exécuter.
Des choses qu'on fait spontanément, a priori.
Des choses qu'on fait spontanément, qui nous paraissent évidemment évidentes, mais plus la situation est neuve, comme aujourd'hui pour ma part c'est une situation neuve, plus la situation est neuve, plus on doit élaborer, mettre en route des processus qui vont nous aider à trouver des solutions. Alors, l'avantage, c'est qu'évidemment, on se repose sur des choses connues. C'est pas la première fois que je viens à Bruxelles, c'est pas la première fois que je consulte un mail, c'est pas la première fois que je dois demander mon chemin dans les couloirs. Et donc, on a des repères qui nous conduisent comme ça à notre but, en fait, à la réalisation de notre but.
Et ce sont ces repères qui ont disparu pour les personnes lésées ?
Alors, c'est pas tant les repères, c'est justement toute une série de processus. Donc, comment on fait pour planifier une activité ? Comment on fait justement pour la mener jusqu'à son but sans être happé, par exemple, par toute une série d'éléments qui n'auront rien à voir, d'être distrait, d'être... voilà, ben je vais consulter mon mail et en fait, je vais voir que ma sœur m'a envoyé la liste des cadeaux de Noël. Ben alors du coup, je vais aller voir la liste des cadeaux de Noël. Non, je dois pouvoir inhiber ça parce que c'est pas le bon moment de regarder ça et je dois maintenir mon activité en cours. Et donc, par exemple, l'inhibition, c'est un des outils principaux pour mener à bien une activité. C'est ce qu'on appelle, nous, les fonctions exécutives.
Agnès Brézon ?
Oui, et donc ce sont des fonctions qu'on peut retrouver dans les jeux de société actuels.
Alors très concrètement, comment ça se passe une séance ? Vous venez avec quoi ? Avec un Scrabble, un Monopoly ?
Alors le Monopoly, on ne l'utilise pas parce qu'en fait c'est déjà beaucoup trop long.
C'est pas faux.
L'atelier jeu de société ou le groupe jeu de société dure une heure maximum. Donc on vient avec donc il y a des patients qui sont regroupés et qui ont chacun un objectif qui est travaillé en séance individuelle, donc quand on est juste à nous deux, et ils auront leur objectif à poursuivre pendant le groupe. Donc par exemple, pour un patient, ça va être pendant le groupe, quand je suis en situation sociale de communication, en situation pragmatique de communication, quand je suis avec ce jeu qui est un référent commun, eh bien je dois pouvoir penser à faire une phrase. Donc c'est des patients par exemple qui ne s'expriment qu'à l'aide de mots isolés, mais qui sont capables en individuel de faire des phrases et que dès qu'ils sont dans un groupe, ils n'y arrivent plus. Donc ça va être le lieu où ils vont pouvoir apprendre à faire ces phrases et prendre le risque de faire des phrases. Pour d'autres patients, ce sera par exemple de faire attention à ne pas parler tout le temps, parce que dans certains types d'aphasie, les patients parlent, ils parlent beaucoup, mais leur discours est vide de sens. Et donc ils doivent apprendre à laisser la place aux autres et à se taire. Et donc quand on vient avec les jeux, donc chaque patient a son objectif personnel, et en plus, ils vont avoir ce jeu, ils vont devoir comprendre les règles. Donc pour les comprendre, ce sera soit via l'audition, parce qu'on va aller leur lire, soit via la lecture, s'ils sont encore capables de lire. Ensuite, comme disait Catherine, ils vont devoir les mémoriser. Et après, ils vont devoir être capables ensemble de jouer le jeu, et donc en appliquant les règles lues et mémorisées. Et là, on va pouvoir voir s'ils sont capables d'inhiber, s'ils sont capables de flexibilité, donc de passer d'une chose à une autre, s'ils sont capables d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire prospective, donc ça veut dire de penser aux actions qu'ils vont devoir faire pour une certaine stratégie, donc pour gagner dans ce jeu-là.
Mais ça veut dire que la situation est presque aussi importante que le jeu en lui-même.
Oui, tout à fait. Oui, oui.
C'est un lieu de socialisation presque.
Oui, c'est un lieu où nous, on peut observer les patients. C'est un terrain d'observation pour toutes les disciplines. Ça peut être le kiné qui va regarder si le patient pense à employer sa main droite. Parce que il doit faire des transferts et est-ce qu'il va manipuler les cartes à la main droite ou est-ce qu'il va toujours utiliser sa main gauche? Parce qu'en fait, ils sont souvent hémiplégiques, donc de la main droite, et on les pousse à réinvestir la fonctionnalité de la main de manière... Voilà. Et on va regarder également, l'ergothérapeute va regarder, la neuropsychologue va regarder au niveau de l'attention, s'il parvient à se concentrer, s'il part sur autre chose. Et on va regarder au niveau des interactions entre eux, comment ils sont capables d'interagir, si c'est pertinent, si ça ne l'est pas, s'ils sont à côté de la plaque, s'ils respectent les tours de parole... Donc il y a beaucoup de choses à voir.
Et la neuropsychologue que vous êtes, Catherine, regarde quoi pendant ces séances ?
Alors, pour l'instant, je n'ai pas de groupe, donc Agnès participe, elle a un groupe de plusieurs patients, donc pour l'instant, moi, j'ai un petit peu changé de voix et je propose aux patients de faire le jeu seul. Et donc, c'est d'autres types de jeux. J'ai aussi animé des groupes, tout comme Agnès. Mais là, pour l'instant, c'est plus... ils sont par exemple devant un écran et ce sont des jeux comme on peut les télécharger sur ordinateur.
Donc on
des
est
jeux
sur
en
du
ligne.
Logiciel, c'est ça ?
Là, on est sur du logiciel, mais la logique est la même. Hein. Et donc, c'est vraiment d'entrer dans cette activité de jeu déjà. Et puis après, tous ces éléments de compréhension de consignes... je lis une consigne. Cette consigne, je dois la traduire en action. Donc on me demande, mon personnage doit aller sur telle bulle où il doit faire telle action après tel autre personnage. Donc je dois lire la consigne, intégrer cette consigne, la maintenir et la traduire alors à ce moment-là en action. Et puis alors ce qui est intéressant dans les jeux qu'on utilise pour l'instant, c'est qu'il y a plusieurs justement stimulations qui arrivent en même temps et des choses qui n'ont rien à voir et qu'il faut écarter et qu'il faut un peu prioritiser, j'ai envie de dire, puisque pour le moment, moi, je m'amuse un peu beaucoup avec des jeux de gestion de temps, mais qui sont extrêmement intéressants parce qu'on se rend bien compte que la personne doit être accompagnée, elle doit être cadrée, alors qu'en fait, le plus souvent, ces jeux en ligne sont censés, justement, monsieur, madame, tout le monde s'installe devant, on chipote un petit peu, on fait quelques erreurs, mais assez vite, on retombe sur ses pattes et on retrouve en fait rapidement les procédures, ce qui n'est pas le cas de la majorité des gens avec qui on travaille. C'est vraiment les accompagner dans ces procédures et on voit malheureusement d'une séance à une autre, parfois il faut recommencer, réaccompagner ce chemin pour se réapproprier le jeu, ce qu'on n'observe pas évidemment chez monsieur et madame tout le monde, qui finalement au bout d'un moment d'ailleurs va vite se lasser de ce type de jeu.
On poursuit ce dossier du jour dans quelques instants, on viendra notamment sur un prototype que vous mettez en place à l'hôpital Erasme, ça s'appelle Roger.
Au positif, le dossier.
11h35 sur la première. Développer ses facultés grâce au jeu, c'est l'approche développée par toute une équipe, celle du Centre de réadaptation fonctionnelle neurologique ambulatoire de l'hôpital Erasme. Nous avons deux invités ce matin pour nous en parler. Catherine De Giorgio, neuropsychologue à Erasme, et puis Agnès Brison, neurolinguiste dans le même hôpital. Alors, on a parlé du jeu, on a parlé de cette séance qui est presque une séance d'observation pour vous, pour les médecins que vous êtes, peut-être un lieu de socialisation aussi pour les patients. Est-ce qu'il y a encore du plaisir là-dedans ?
Oui, évidemment. Donc ça, c'est vraiment la notion de base et c'est pour ça que les patients viennent, parce qu'ils ne sont pas obligés de venir au groupe jeu. C'est parce qu'ils prennent du plaisir. Et ils prennent d'autant plus de plaisir que les jeux sont des jeux qu'on trouve dans le commerce. Ce sont des jeux tout à fait normaux. Il y a énormément de jeux de société qui sortent chaque année. Cette année, il y en a 800 qui sont sortis. Et donc, tous des jeux qui utilisent ces facultés cognitives qui sont préservés chez eux ou au contraire qui sont déficitaires. Donc pour nous, c'est facile d'aller trouver des jeux. Pour eux, c'est facile d'aller les retrouver après si ça leur plaît. Et donc, suite au groupe jeu, régulièrement, ils demandaient pour pouvoir reprendre le jeu à la maison parce qu'ils se sentaient revalorisés à l'hôpital en employant le jeu et ils voulaient montrer à la maison que leur quotient intellectuel, qui est largement préservé en cas d'aphasie, fonctionne toujours et qu'ils sont capables de jouer à des jeux auxquels tout le monde est capable de jouer. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une notion de plaisir et c'est comme ça qu'on a organisé les rencontres des samedis neuroludiques.
Alors parlons-en.
Donc ça, c'est une fois par an. On organise ça généralement au mois d'octobre parce que ça coïncide avec la journée de la cérébrolésion. Et c'est un événement qu'on voulait offrir aux familles, justement. Un événement pour lequel les familles peuvent venir avec le patient pour partager un moment de plaisir, un moment de détente commun. Ce qui se passe, c'est qu'on a des spécialistes du jeu qui viennent avec des jeux que nous avons présélectionnés. Les spécialistes viennent expliquer les règles aux thérapeutes qui se transforment pour l'occasion de l'après-midi en coach, si vous voulez. Et donc, ce sont les thérapeutes qui vont expliquer les règles et prendre rapidement en main les jeux pour faire jouer les patients et leurs familles. Donc, vraiment dans un but de plaisir et de partage.
Catherine, la notion de plaisir devant un logiciel, elle est importante aussi ?
Je pense que la notion de plaisir permet d'augmenter la motivation, qui n'est pas toujours simple. Quand on vient en rééducation, il faut quand même dire que les gens qui viennent chez nous viennent environ 3 fois par semaine. Ça peut durer quelques semaines, mais ça peut dururer des mois, voire 2 ans, en fait, puisque c'est la limite, je dirais, donnée par l'INAMI. Et donc, c'est vraiment un effort constant. C'est un effort qui se fait dans toutes les disciplines, donc en ergothérapie, en kinésithérapie, en logopédie, en psychologie. Et donc, le patient passe comme ça à travers toutes ces disciplines où chaque fois il est mis dans des exercices qui lui demandent, évidemment, de beaucoup se concentrer, d'être confronté à ses difficultés. Et donc, il y a des moments où on essaye évidemment de trouver des activités où on peut un petit peu plus peut-être lâcher prise et trouver un intérêt différent parce que voilà, on est moins peut-être dans une situation d'exercice. On peut avoir ce caractère ludique qui va un petit peu soulager la séance, mais qui permet malgré tout, soit pour nous d'observer certaines choses, soit pour lui justement de se rendre compte à travers du jeu ses difficultés, mais de façon plus détendue, j'ai envie de dire.
Et quoi. Plus ludique.
Plus ludique, tout à fait, oui.
Agnès Brison, ça fait longtemps que vous travaillez avec des jeux de société dans vos séances ?
Moi, ça fait, je pense, 15 ans que je suis à l'hôpital Erasme, mais ça fait 15 ans qu'on joue, qu'on fait... Oui, qui a l'atelier jeux de société.
Donc c'est pas du tout nouveau, en fait.
Non, mais comme le centre est avisé de réinsertion sociale, familiale, voire professionnelle, c'est important de confronter les patients à des groupes. Et donc, il y avait un groupe rythme, percussion, groupe atelier cuisine, groupe lecture, et il y avait le groupe jeux de société. Ce qu'il y a, c'est que les ateliers avaient lieu une fois par mois ou une fois tous les deux mois, et c'était pas assez pour les patients. Donc finalement, cet atelier-là est devenu un atelier hebdomadaire.
Et est-ce qu'on recherche encore d'autres vertus liées au jeu ? Est-ce que ça fait l'objet de recherches, cette capacité comme ça à jouer et à peut-être à avancer dans son traitement ?
Mais on se demandait si la question allait être posée de est-ce que les jeux permettent de récupérer ces fonctions cognitives ? Et on tournait un petit peu la question dans tous les sens et... Déjà la rééducation et les moyens qu'on utilise sont déjà, on n'arrive pas toujours à prouver que ce qu'on fait permet justement de récupérer ses facultés d'attention, ses facultés de mémoire. Et donc, en utilisant le jeu qui est une mise en situation comme plein d'autres, hein, on a justement, on disait atelier lecture, on a atelier cuisine, on a toutes sortes de choses comme ça. Donc, on essaye aussi bien sûr de quand on utilise le jeu de se dire ben voilà j'ai choisi ce jeu-là parce que voilà cette personne a des difficultés justement je ne sais pas moi à faire attention dans son espace. Donc on a des patients qu'on appelle des patients hémi-négligents. Donc ce sont des patients qui n'arrivent plus à prêter attention sur la gauche en fait le plus souvent. Et donc, voilà, par exemple, je parlais tout à l'heure de logiciel. On a un logiciel comme ça où la personne est un petit personnage et elle est dans un hôtel. Et il y a quatre chambres. Il y en a deux à gauche et il y en a deux à droite. Et les gens rentrent dans les chambres de cet hôtel et ont des demandes. Ils veulent un café, ils veulent qu'on vienne leur apporter deux, trois objets. Et donc, ça permet en fait de montrer aussi aux patients à travers le jeu que, ben tiens, monsieur machin et madame bidule, à chaque fois, vous oubliez d'aller lui apporter le café ou son journal. C'est le personnage sur la gauche. Là, ça a des conséquences qui ne sont pas des conséquences comme dans la vie réelle, mais ça a quand même une conséquence que bah, le personnage, on voit qu'il est mécontent au fur et à mesure, et puis il disparaît, et puis on n'arrive pas à passer au second stade. Et donc là, ça permet aussi au patient de prendre conscience, et pour nous, c'est vraiment essentiel, cette prise de conscience. Donc, c'est un moyen comme un autre, c'est un outil comme un autre, mais ça a déjà cette vertu, en tout cas, de pouvoir être un outil qui amène cette prise de conscience. Maintenant, est-ce que les jeux sont efficaces comme d'autres techniques de rééducation. Oui, ça demande évidemment un travail scientifique qui est d'ailleurs fait actuellement aussi pour les enfants. Hein. Donc les enfants qui sont avec des troubles déficitaires de l'attention. Donc on sait bien que justement les neuropsychologues, les logopèdes utilisent beaucoup le média-jeu avec les enfants justement pour faire travailler certaines fonctions. Et il y a maintenant des jeux qui se développent dans ce secteur. Donc des jeux qu'on appelle des jeux qui favorisent les fonctions exécutives, etc. Donc il y a des recherches dans ce sens-là, de voir si réellement ça sert à quelque chose, oui. Outre le fait qu'on parlait tout à l'heure, bien sûr, de cette atmosphère du jeu, l'activité jeu, le plaisir dans le jeu, tous les éléments dont on a déjà parlé.
Voilà, la moindre des choses quand même, cette notion de plaisir. Parlez-nous de Roja, c'est un prototype de jeu, de logiciel
alors,
que
on
vous
a
mettez
eu,
en place.
Voilà, on a eu la chance de créer un logiciel de réalité virtuelle grâce en fait à un appel à projet du Microsoft Innovation Center Mons. Et donc on avait abouti à une première maquette. Maintenant on a une deuxième maquette grâce aux mutualités socialistes Solidaris. Et donc cette maquette en fait est un appartement virtuel, enfin ce stade-ci c'est plus un studio, mais donc il y a une chambre, une salle de bain, il y a un dressing, il y a des objets dans cet environnement que l'on peut saisir, des objets 3D et des objets que nous on appelle des objets actionnables, donc des objets qui peuvent avoir une conséquence, donc il y a un fer à repasser, s'il est allumé et qu'on sort de la pièce, ben, voilà, on n'est pas censé partir et laisser le fer allumer. L'idée première c'est d'avoir Donc en fait, le plus souvent, on fait des rééducations, il faut le dire, dans nos bureaux, avec des exercices que nous, on appelle encore des exercices papier-crayon, qui sont bien éloignés de la vie quotidienne. Et donc, on essaye de se rapprocher de plus en plus de la vie quotidienne, ce que nous, on appelle le versant écologique de notre activité. Mais donc, on n'a pas comme ça tous des environnements. Enfin, Erasme, on a l'avantage, on a une cuisine, on a une galerie commerçante en bas. Donc, on peut imaginer toutes sortes d'activités.
Et vous les sortez du bureau à ce moment-là ?
On les sort du bureau, bien sûr. Mais les mises en situation, voilà, ça demande d'être pensé, ça doit être paramétré pour une personne. Ben, il va falloir 10 objets dans l'armoire, pour une autre, il en faudrait 20, et il faudrait qu'en plus la radio soit allumée. Enfin, et donc, de paramétrer ces situations de vie, c'est extrêmement compliqué. Et donc, voilà, l'avancée de la réalité virtuelle, ça peut être un atout, justement, de plonger les gens dans des environnements créés de toutes pièces, mais où on peut paramétrer, justement, le niveau de difficulté au départ et pendant la tâche. Et donc là, pour l'instant, dans le logiciel, on demande aux gens de préparer une valise, selon certaines contraintes, et ils peuvent être interrompus parce qu'il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte et qui vient dire « Ah, ta femme m'a dit que tu ne devais pas oublier le cadeau qui est dans l'armoire, etc. » Enfin, des choses comme ça. Ou d'avoir une information à relever à la radio qui annonce que voilà, et finalement il va pleuvoir et que pour le week-end, il faudra quand même mieux prévoir ses vêtements de pluie que les choses pour le soleil. Voilà.
Et il sera au point quand exactement ?
Ah, ça c'est une bonne question. On recherche des fonds. Donc là, comme on a dit, on a bénéficié de cette maquette grâce aux deux sponsors, donc le MIC et Solidaris. Donc maintenant, on est en train de chercher des fonds parce qu'évidemment, ça demande énormément d'argent. On travaille avec une société de jeux qui s'appelle Fishing Cactus. Et voilà, ça demande tout développement, tout objet, j'ai envie de dire, coûte plusieurs centaines d'euros. Et donc voilà.
Voilà, le message est passé. On peut vous joindre quelque part, vous contacter éventuellement ?
Oui, alors justement, dans le CRFNA, c'est un peu le nom barbare que le centre a. Il n'est pas pour l'instant sur le web de l'hôpital Erasme, mais vous pouvez donc taper www.crfna.be. Et là, vous avez en fait les différentes disciplines. Et dans les disciplines, vous pouvez retrouver nos contacts très facilement.
Catherine De Giorgio, Agnès Brison. Et puis alors le CRFNA, c'est le Centre de Réadaptation Fonctionnelle Neurologique Ambulatoire de l'hôpital Erasme. Merci mesdames d'être passées dans
Merci
ce studio.
À vous. Merci.
Bonjour Agnès.
Bonjour.
Alors cette semaine, vous nous proposez Anaïs. Ouh là
oui,
là, je me suis trompée.
C'est
non.
pas grave, il n'y a pas de
Je
soucis.
Découvre. vous avez des yeux magnifiques.
Merci.
On ne se connaissait pas trop jusqu'ici. Anaïs, donc bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien.
Vous nous proposez un feuilleton cette semaine sur les nouvelles urgences de l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles. Un petit previously, comme on dit dans le jargon, qu'est-ce qui s'est passé les autres jours et qu'est-ce qu'on va entendre aujourd'hui ?
Voilà, eh bien depuis lundi, donc je vous présente ce feuilleton sur les urgences de Saint-Luc. Donc on est tout d'abord passé par l'historique de ces urgences. Ensuite, on a vu aussi l'épisode sur les travaux, voilà, que je reviens dessus, et ensuite le point de vue des infirmiers. Et donc aujourd'hui, pour le dernier épisode, je vous envoie dans le CMGU. Alors qu'est-ce que le CMGU ? En fait, c'est une consultation de médecine générale d'urgence. En d'autres mots, vous saurez ça par la suite. J'ai rencontré Monsieur Duboulet et le professeur Tiss qui vous explique également la recherche et l'enseignement à Saint-Luc.
On les écoute.
Frédéric Tiss, chef du service des urgences.
Alors le CMGU, donc le Centre de médecine générale d'urgence, est un concept que nous avons imaginé avec M. Reinhardt à l'époque, en 1995, lors d'une réflexion interne sur comment faire pour répondre adéquatement aux patients qui venaient aux urgences parce qu'ils ressentaient qu'ils étaient malades, mais nous identifions que c'était des problèmes qui relevaient de la compétence des médecins généralistes. Nous avions alors imaginé un concept où des médecins généralistes recevraient des patients au sein du service des urgences et on les orienterait de la sorte en disant « vous êtes relevant de la médecine générale ». Pour diverses raisons, ça n'a pas pu se faire dans cette forme-là, car nos collègues médecins généralistes voulaient garder une identité propre. Ce qui fait qu'en 2006, le docteur Duboulet a pris l'initiative de nous recontacter par rapport à ce concept et il a mis sur pied ce concept de manière opérationnelle, d'abord en utilisant, je vais dire, une petite infrastructure à distance des cliniques et puis ensuite nous avons ouvert le CMGU tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire une entité devant les urgences et qui accueille les patients qui relèvent de la médecine générale mais qui se sont présentés chez nous et à qui on propose d'être vus par nos collègues généralistes parce que leurs problèmes relèvent de leurs compétences.
Didier Didier Duboulet, responsable du poste de garde CMGU.
Le CMGU est une consultation disponible pour la population, en l'occurrence ici à côté des cliniques universitaires Saint-Luc, de telle sorte que le patient puisse être pris en charge par la première ligne quand c'est possible et nécessaire.
Vous avez un lien avec les urgences, lequel ?
La moitié de notre activité est effectivement engendrée par un flux de patients en provenance des urgences. L'autre moitié sont les patients qui viennent spontanément chez nous ou adressés directement par leur médecin traitant.
Est-ce que vous avez un cas concret de patients qui arrivent des urgences ?
C'est souvent des patients qui n'ont pas de médecin traitant d'abord, ça c'est certainement le cas le plus fréquent, qui ne sait pas où aller se faire soigner et va directement aux urgences parce que ce sont des endroits qui sont visibles, grands et permanents. Et donc, le patient ne sachant pas où s'adresser va directement aux urgences et c'est là qu'ils sont réorientés vers nous puisque nous existons.
Et combien de médecins généralistes travaillent pour le CMGU ?
Alors actuellement, nous sommes à peu près 25 médecins dans l'équipe à travailler, que ce soit au CMGU ou bien dans leur propre consultation de médecine générale dans les environs de Bruxelles. En pratique, pour les heures d'ouverture, pour que ça puisse effectivement fonctionner correctement, nous sommes ouverts en semaine à partir de 8h du matin et le week-end jour férié à partir de 9h du matin, et cela jusqu'à 23h, 7 jours sur 7.
Alors j'ai entendu que le CMGU a aussi des projets de construction.
C'est-à-dire que notre poste de garde se trouve dans des bâtiments provisoires qui sont par ailleurs fort confortables et ergonomiques. Nous allons construire une tour ici dont nous occuperons tout le rez-de-chaussée, juste à côté de l'endroit où nous nous trouvons et encore plus près des urgences qu'actuellement.
Est-ce que le fait d'avoir des nouvelles urgences ici à Saint-Luc va changer quelque chose avec le CMGU ?
Quant à nos relations avec la clinique Saint-Luc, l'avantage c'est que vu la proximité, nous participons régulièrement au débriefing, ce qui nous permet entre collègues spécialistes et généralistes d'échanger nos informations à propos de la gestion de ces patients. Donc je pense que pour le patient, le service d'urgence en construction à Saint-Luc va certainement améliorer l'accueil et la prise en charge de ces patients. Et j'espère que le fait de, pour nous autres aussi de construire notre nouveau bâtiment très prochainement va entraîner un meilleur accueil aussi dans un confort plus important pour le patient.
Frédéric Tisse, chef du service des urgences.
Dans le service d'urgence, nous avons un grand rôle au niveau de l'enseignement au lit du malade, car chaque année, nous accueillons un nombre important de stagiaires et un nombre important d'assistants en formation. Donc cet enseignement-là est un enseignement au lit du malade, mais nous avons également une charge d'enseignement dans les études de médecine pour apprendre aux étudiants ce qu'est la médecine d'urgence, comment accueille-t-on un patient en aigu, quel est le système de santé de l'aide médicale urgente, l'organisation en tant que telle. Et grâce à cela, les médecins qui se destinent à la formation d'urgence ont une meilleure approche, ou en tout cas une meilleure idée des contours de la spécialité. Car il faut savoir aussi que dans le service des urgences, outre la prise en charge médicale, c'est un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec nos collègues infirmiers, nos collègues kinésithérapeutes, mais aussi les collègues administratifs, car certains patients n'ont pas de papier et il faut pouvoir les aider à être régularisés. Et nous avons aussi une aide très précieuse d'un assistant social qui permet de résoudre des problèmes psychosociaux. Car lorsqu'on se casse le poignet à 20 ans, la problématique n'est pas la même que lorsqu'on se le casse à 85 ans et que l'on vit seul. Il y a là toute une série de choses qu'il faut régler. Comment va-t-on faire le repas ? Comment simplement ouvrir sa porte ? Comment pouvoir se laver ? Et toutes ces choses-là, nous devons aussi les traiter dans l'urgence. Et donc c'est toute l'équipe qui trouve une solution et pas uniquement le médecin.
Au niveau de la recherche, comment ça se passe ?
Alors au niveau de la recherche, il y a aux urgences maintenant une recherche spécifique, qui est une recherche orientée donc vers la problématique de la thérapeutique et de diagnostic non-invasif. Et nous avons des protocoles de recherche. Alors, ça peut être paradoxal, je viens aux urgences, j'y reste une heure, et malgré tout on fait de la recherche, oui, on obtient le consentement du malade, on lui explique pourquoi on fait de la recherche, et par exemple, on lui propose une nouvelle stratégie diagnostique, de nouveaux examens, et ensuite, lorsqu'il est rentré à la maison, 3 mois plus tard par exemple, on l'appelle pour lui demander s'il va bien, comment s'est passé le retour à la maison, ou parfois, nous appliquons dans les recherches thérapeutiques, une nouvelle approche pour aider les patients, par exemple dans l'insuffisance respiratoire. Nous avons mis en place des systèmes de recherche où le patient, il lui est proposé d'emblée quelque chose que l'on ne fait pas ailleurs. Une nouvelle approche, un nouveau type de respirateur. Et donc ça nous permet ensuite de le valider, éventuellement d'en faire profiter d'autres services d'urgence.
Voilà qui concluait ce feuilleton consacré aux nouvelles urgences Saint-Luc. Merci Anaïs.
Merci beaucoup.
À suivre, le forum de midi avec Martine Cornil, le thème du jour. Comment les jeunes deviennent-ils délinquants? Merci à Catherine Sorel, Sandra Veras, Anaïs Guissard et Caroline Gillet pour la préparation de cette émission. À la technique aujourd'hui, Pierre Devalet. Merci à toutes, merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de La Première. À demain.
Podcast, La Première.